Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Un homme avait deux fils. Ainsi commence la parabole de l'enfant prodigue racontée par Jésus et retranscrite par Saint Luc. Qui est cet homme, ce père de famille? Dans son ouvrage Le Père prodigue, l'invité de Radio Présence bouleverse l'ordre établi. Ainsi, ce n'est plus le fils qui est prodigue, dilapidant tous ses biens, mais c'est son père. Et que dépense-t-il donc à profusion? Frère Jean-Gabriel Rueck, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes prieur des Carmes du couvent de Toulouse et l'auteur de cet ouvrage Le Père prodigue aux éditions du Carmel. Un ouvrage, vous me le disiez en préparant cet entretien, qui est dans la collection Vie intérieure et donc qui est un ouvrage de spiritualité, un ouvrage, on va dire, de fondation.
Tout à fait, mais la spiritualité se fonde sur la foi de l'Église. Vous savez, la Madre, elle a suffisamment insisté pour dire que la vie mystique n'était jamais en dehors de la tradition spirituelle, théologique de l'Église surtout.
Et la donc, Madre, c'est Thérèse d'Avila.
Thérèse d'Avila, oui, bien sûr, parce qu'on va parler de la petite après, voilà, puisque c'est aussi une lecture thérésienne de la parabole de l'enfant prodigue. Je vais m'en expliquer dans cette émission, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est un ouvrage, comme dit Monseigneur Battu dans sa préface, c'est un ouvrage exigeant. C'est exigeant parce que, effectivement, cette parabole, ça n'est pas seulement une parabole qui nous retrace l'histoire anecdotique d'un fils qui part loin de la maison de son père et puis qui revient. C'est vraiment l'histoire de toute l'humanité, des heures et malheurs, pour parler encore comme Monseigneur, des heures et malheurs de l'humanité. Vous voyez, je crois que cette parabole, elle est immense. D'ailleurs, des grands écrivains ont dit que s'il fallait seulement conserver en mémoire un passage de l'Évangile, il conserverait celui-ci.
Oui, vous citez Charles Péguy au début de votre
ouvrage. Charles Péguy, bien entendu, qui en a suffisamment et amplement et magnifiquement parlé dans le porche du mystère de la deuxième vertu, qui est son chef-d'œuvre. Et puis Dostoïevski aussi, il meurt en demandant à ses enfants, ses deux enfants, d'aller chercher donc la Bible. Et dans la Bible, il meurt quelques heures après, il veut écouter la parabole de l'enfant prodigue. Et il leur dit que effectivement cette parabole est immense et que quoi qu'ils aient fait, même fût-ce un meurtre, il faudrait toujours qu'ils se souviennent que le repentir est possible.
Et vous dites, frère Jean-Gabriel, à l'instant, vous nous dites que finalement, il faut se détacher un petit peu de ce récit de l'enfant qui part et qui revient. Et dans votre ouvrage, vous écrivez que cette parabole de l'enfant prodigue, elle constitue une sorte de quintessence de la révélation judéo-chrétienne.
Absolument. Dans la mesure, et c'est pour cela que cet ouvrage est un petit peu exigeant, dans la mesure où il puise non seulement à la théologie, surnaturelle, c'est-à-dire révélée, à la foi, si vous voulez, mais également à la théologie naturelle qui s'inspire de la philosophie grecque. Alors pourquoi? Parce que précisément le terme qu'emploie Saint Luc, c'est l'idée qui a présidé à l'ouvrage, donc je suis obligé d'en parler, mais c'est pour dire que quand même il y a une petite exigence quand même, même si on ne connaît pas tellement la métaphysique grecque, parce que j'essaye quand même aussi de préparer les choses, de la rendre la plus accessible possible. Je dirais que donc ce qui a présidé à cet ouvrage, c'est l'idée que Saint Luc emploie, à mon avis volontairement, mais on peut pas le prouver, mais en tout cas parce que c'était quand même quelqu'un de très cultivé, faut pas oublier qu'il était médecin, qu'il connaissait parfaitement le grec et la culture grecque. Il emploie ce terme ousia, qui est pour bien de fortune ou part d'héritage, qu'on peut traduire par bien de fortune, parce que c'est un terme polysémique, bien entendu, mais qui aussi signifie dans la tradition philosophique grecque la substance des choses ou l'essence des choses. Donc, si vous voulez, c'est en même temps un livre qui puise donc dans la philosophie grecque avec Aristote et puis saint Thomas qui reprend également les choses pour les accomplir, parce que saint Thomas est avant tout un très grand philosophe, et donc pour dire que cette ousia, cette essence, ne sert à rien sans celui qui donne ce qui lui donne son existence, ce qu'on appelle son acte d'être. Donc, et c'est ce que fait c'est l'expérience que fait l'enfant prodigue de partir loin de la maison du père. Et c'est donc une parabole de l'humanité qui se détache de Dieu par le péché originel. Péché. C'est en même temps une parabole sur le péché originel. C'est en même temps une parabole sur la rédemption accomplie par le Christ.
Qui, et sur la miséricorde.
Voilà, pour les païens, parce que le fils cadet qui s'en peut tout à fait signifier les païens, les goïms, hein, qui sont appelés aussi à revenir à la maison du père. Et puis le fils aîné qui est toujours resté avec le père, mais qui n'a pas véritablement compris la largesse de sa miséricorde infinie, qui est pour tous les hommes. Et justement, il va en faire l'expérience. C'est-à-dire que le père, tout ce qui est à moi est à toi, effectivement. L'héritage est à nos frères juifs, bien entendu. Hein. Le salut vient des juifs, dira Jésus à la Samaritaine. Et c'est vrai, c'est vraiment la ligne hein, de la révélation. Hein. Oui, oui, mais elle est ouverte à tous. Mmh. Hein, donc et en même temps, c'est surtout une vision extraordinaire de la paternité divine.
Mmh. Alors évidemment, vous avez brossé déjà à grands traits les points saillants de votre ouvrage et nous parlerons de ce fils aîné, nous parlerons aussi de ce cadet qui part et qui revient chez son père. Vous avez employé le terme de l'être de l'homme vous écrivez que l'appel divin est inscrit dans notre être même et ce, dès la création. Qu'est-ce que ça nous dit de Dieu créateur?
Ça nous dit tout, ça nous dit justement tout de la création. À partir de rien, comme dit saint Paul, Dieu donne l'existence à ce qui n'existe pas, ou alors il nous fait passer du néant à l'être aussi, il le dit. Et par lui, là, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tout ça, c'est du saint Paul. Hein. Saint Paul était aussi enraciné dans la culture grecque. Il savait à qui il s'adressait aussi. Hein. Donc, il y a tout cet héritage, vous voyez, de philosophique qu'on a perdu malheureusement avec les idéalistes notamment, mais qui est la philosophie réaliste, c'est-à-dire on part de ce qui est, c'est-à-dire l'ousia justement, ce qui est, toute l'essence des choses. Et on essaye de donner une raison d'être à tout ce qui est. Et la raison d'être à tout ce qui est, c'est précisément l'acte d'être qui ne coïncide pas avec l'essence, qui ne coïncide pas avec l'ousia, mais qui est reçu. Le premier don reçu de Dieu, c'est notre existence elle-même. C'est pour ça que je dis, Dieu nous donne à nous-mêmes. C'est la première grâce, que j'appelle la grâce d'exister. C'est le premier chapitre, ça. Oui. La grâce d'exister. Et après, Dieu est fidèle à son dessein. Vous comprenez ? Dieu est un créateur qui ne peut pas abandonner sa création. Et c'est déjà dans la création, on voit, parce qu'il nous aime pour nous-mêmes. Ouais, c'est très important de comprendre que toute personne est digne d'être ce qu'elle est parce que Dieu l'a posé dans l'être et il ne peut pas se régner lui mettre dans ce qu'il fait, voyez.
Et on voit aussi dans cet acte de création que Dieu n'est pas solitaire, qu'il est en relation.
Absolument, mais Dieu ne peut qu'être en relation. Il est Trinité, il est amour, communion en lui-même, hein, ad intra pour parler comme les théologiens, à l'intérieur de lui-même, il est communion d'amour, Père, Fils et Esprit Saint, donc relation éternelle d'amour, et en même temps communication. C'est pour ça, mais alors une communication totalement gratuite. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a des parallèles troublants qu'on peut faire entre cette histoire de l'enfant prodigue qui nous dit quelque chose, vraiment, qui nous dit amplement ce qui est Dieu et le geste de la création, mais en même temps, ce parallèle qu'on peut faire avec l'enfance spirituelle de la petite Thérèse. Hein. J'ai trouvé une phrase donc, qui n'est pas de moi, qui est du père André Combes, qui est un des plus grands commentateurs de la petite Thérèse, dans son initiation à la spiritualité de sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Je fais un petit peu de pub parce qu'elle a été réédité, ça a été réédité par nos éditions du Carmel. Voilà ce qu'il écrit. L'enfant spirituel, c'est la conscience de la gratuité de la rédemption et la recherche de ce don comme gratuit. Voyez, adhérer du fond du cœur et par toute sa vie à cet ordre de salut, c'est reconnaître le primat de l'amour de Dieu et s'ouvrir à ses constantes libéralités. Voyez, ce qui prime, c'est l'amour de Dieu. C'est le primat de l'amour de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que je dédie le livre à Benoît XVI, parce que tout son pontificat, ça a été de dire qu'il y a un primat de l'amour de Dieu. L'initiative.
Dieu est amour, c'est ce qu'il a écrit.
Voilà. Sa première encyclique, Dieu est amour, où je recommande d'ailleurs la première partie qui est absolument sublime, et justement où il dit que l'initiative première vient de Dieu, ça s'appelle la grâce. Alors il y a la grâce d'exister, et puis après il y a la grâce de la rédemption, mais c'est la même continuité. C'est cette grâce, c'est la même, ça nous dit justement l'origine, la source de tout, qui est le Père. Et le Père, de qui vient tout don parfait, dira encore saint Paul. Tout bien vient de lui. Voyez, il n'y a que le péché, mais en même temps, le péché n'existe que par rapport au bien. C'est une altération du bien, le mal moral, qui est véritablement le mal, ce qu'on appelle le péché. Voyez, c'est une altération du bien, mais en Dieu, il n'y a que le bien. Pour ça, Dieu, saint Thomas dira que Dieu est sans idée du mal même,
oui,
voyez.
Oui, c'est ça. Par ce don gracieux de l'existence, Dieu dote l'homme de tous les dons spirituels qui font de lui une personne humaine, écrivez-vous, frère Jean-Gabriel. Que permettent ces dons et qu'impliquent-ils de la part de l'homme?
Alors, là, effectivement, il faut bien comprendre que Dieu en crée en l'homme, et on voit ça dans les premiers chapitres de la Genèse qui sont absolument incontournables, si on veut comprendre quelque chose à la situation dans laquelle nous sommes. Non seulement Dieu crée un monde, évidemment, avant le péché, heureusement, il y a la création, où l'homme, justement, est appelé à multiplier, à croître et à multiplier, vous voyez. Donc, une fécondité extraordinaire de cette création qui vient de Dieu. Il vient de Dieu parce que rien n'existerait. Cette petite phrase est extraordinaire de saint Thomas, mais je n'ai pas réussi à la retrouver. Alors, dans le livre, je dis que ça revient de la théologie, de la tradition médiévale. Même chez les grands connaisseurs de saint Thomas, ils n'ont pas réussi. Mais je suis sûr que je l'ai entendu un jour, je ne sais pas où. C'est « aliquid est ergo deus est » en latin. Ça sonne pas mal, mais je vais vous le traduire tout de suite. Quelque chose existe, donc Dieu existe. Voyez, donc, rien n'existerait si Dieu n'existait pas. Voyez, donc, l'existence actuelle, notre existence actuelle, nous introduit dans l'existence même de celui qui est transcendant, puisqu'il est l'être qui n'est qu'être. Vous savez, hier, on entendait dans l'Évangile, l'Exode 3.14, la révélation que Dieu fait de lui à Moïse, voyez. Je dis que c'est le pi chrétien, puisque c'est 3.14, voyez. Donc c'est le pi judéo-chrétien même, parce que précisément, voyez, Dieu, eh bien, il dit à Moïse, mais pourquoi me demandes-tu mon nom ? Je suis. Je suis qui je suis. Je suis celui qui est, autrement dit, voyez, métaphysique de l'Exode, pour parler comme Étienne Gilson, un des grands commentateurs de saint Thomas, que je cite pas mal dans le livre. Et donc, cette existence donc, qu'on tient, cette actualité de notre existence propre, que l'on tient de Dieu, eh bien, forcément, donc, à l'origine, Dieu, parce qu'il nous a ordonné au ciel, à la participation à sa transcendance, justement, ce qu'on appelle le ciel ou le royaume, si vous voulez, pour toujours. C'est pour cet amour que nous avons été créés. Il nous donne tous les dons et surtout la grâce. L'arbre de vie est au milieu du jardin. Vous voyez, en Genèse 2, il est au milieu du jardin. Mais il ne faut pas prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que va faire la folie d'Adam et la folie du fils cadet. Demander sa part d'héritage, autrement dit ce qu'il a lui-même, son nousia, son essence, en se coupant de la source de son existence. Ce qui fait que, eh bien, il s'approprie son existence qui est indue. On ne peut pas s'approprier. La seule chose dont on ne peut pas s'approprier, c'est notre existence.
Et c'est justement ce qui nous fait nous poser la question de la dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu.
Exactement.
J'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus, parce que comment la faire coexister avec la liberté que Dieu donne à chaque homme?
Ah, exactement. C'est pour ça que dépendance, on pourrait parler de dépendance ontologique, c'est-à-dire de l'être, bien entendu, parce que sans lui, on ne serait pas, sans Dieu, on n'est pas. Mais justement, il nous crée, c'est pour ça qu'il y a un chapitre qui s'appelle sur la subsistance, parce que précisément, Dieu nous donne, mais entièrement libre. Nous sommes entièrement libres de faire ce qu'on veut avec avec ce qu'on est, avec notre oussia. C'est justement l'expérience que va faire le fils cadet, parce qu'il demande sa part d'héritage. Ok, et Dieu lui a laissé, lui donne, comme à chacun, tu es libre de faire ce que tu veux avec ce que tu es, ce que je t'ai donné d'être. Ça s'appelle la subsistance, donc. Maritain, on parle beaucoup, je l'ai épuisé à Maritain. Donc, cette idée. Mais c'est très important, effectivement, de comprendre qu'il y a une dépendance, mais dans une totale liberté. Pourquoi ? Parce que la réponse à l'amour de Dieu ne peut être qu'entièrement libre. Elle est de consentement, voyez. Mais il faut consentir. Dieu ne nous sauvera pas sans nous. C'est la fameuse phrase de saint Augustin. Vous savez que les pères de l'Église répètent très souvent, il n'y a pas que saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Ça, il faut. Et ça nous ça nous dédouane de toute idée d'une miséricorde qui n'impliquerait pas
l'homme.
Mmh. Voyez, la miséricorde implique l'homme, mais pas comme cause première de son salut. La cause première du salut, c'est le Père et le Fils unique, le vrai Fils aîné, c'est Jésus évidemment, mmh, qui va donner sa vie pour que précisément on consente à la vie de Dieu en nous que le péché originel nous a fait perdre. C'est pour ça qu'en même temps, cette parabole de l'enfant prodigue est une parabole sur le péché originel aussi. C'est-à-dire la folie que commet l'homme de s'éloigner de la maison du Père, alors que la maison du Père, mais elle est seule bien dont il ne faut pas s'éloigner. Voyez, et c'est pour ça d'ailleurs que le Père est si heureux de retrouver le Fils et de l'embrasser, mais, et de dire à son fils aîné qui est jaloux et qui ne comprend pas parce que c'est scandaleux. Enfin, il a dépensé tout son argent, et toi tu l'accueilles, mais il était perdu. Et il est retrouvé. Voilà la joie du Père. Vous savez, c'est la joie des 99 justes que le Christ laisse qui va rechercher la brebis perdue pour la mettre
retrouvée
sur ses épaules. Oui. Mais voilà le Dieu auquel nous croyons. C'est un Dieu d'infinie miséricorde. C'est pour ça qu'effectivement, la petite Thérèse a quelque chose aussi à nous dire sur cette parabole. Et que, effectivement, je la fais intervenir.
Alors, dites-nous justement, et après on fera une petite pause musicale, ce que dit Thérèse sur cette parabole.
Alors, vous voyez, je vais citer simplement Thérèse elle-même dans ses manuscrits autobiographiques. C'est dans le manuscrit C, folio 36, verso. « Oui, je le sens, quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai le cœur brisé de repentir. » Il ne faut jamais oublier ça, on va peut-être y revenir, le repentir. Vous voyez, ça ne se fait pas automatiquement. C'est pas Michel Polnareff, on ira tous au paradis parce que, Dieu est un Père Noël.
Il y a une démarche de la personne humaine.
Voilà, le cœur brisé de repentir, et ça c'est valable pour tous. Mais attention, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. On fait plaisir à Dieu lorsqu'on revient à lui. On réjouit le cœur de Dieu lorsque le pécheur revient à lui. Voyez ?
Et c'est ce qui se passe dans la confession.
Et c'est ce qui se passe dans la confession. Tout à fait.
Je vous propose, frère Jean-Gabriel Rouet, de faire une première pause musicale. Vous allez nous éclairer après cet arrêt, pardon, sur l'attitude des deux fils. Et puis, on va pouvoir comprendre exactement pourquoi l'un réagit, en tout cas, pourquoi l'aîné réagit comme ça. Nous écoutons « J'espère en silence », interprété par les Dei Amoris Cantores.
Ah, magnifique.
Je l'ai
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Le Père prodigue, c'est le nouveau livre de frère Jean-Gabriel Rueck, prière des Carmes de Toulouse. La parabole du fils prodigue est l'histoire d'une filiation, écrivez-vous. Elle implique donc un bien commun. J'aimerais que vous nous définissiez ce que c'est que ce bien commun, puis après nous allons nous arrêter sur ces deux frères, ces deux fils.
Le bien commun, c'est justement l'héritage, la part d'héritage.
Cette fameuse Oussia,
c'est justement ça l'héritage. L'héritage, c'est ce qu'on est, mais ce qu'on est en Dieu. Et lorsqu'on se projette en dehors de lui, on ne peut qu'arriver au désespoir, au pire désespoir. C'est pour ça qu'en même temps, c'est une attaque, ce livre-là, il est philosophique aussi, donc c'est une attaque contre l'existentialisme athée, notamment de Jean-Paul Sartre. C'est-à-dire que justement, Jean-Paul Sartre revendique l'appropriation d'existence, et Danielou, que je cite, dit « c'est justement ça qu'on ne peut pas s'approprier, puisque c'est un don reçu ». Vous voyez ? Et c'est ce qui embête d'ailleurs Sartre, parce que Sartre, jusqu'au bout, il va être travaillé par ça, et il va dire, alors pour lui, l'être est le néant, c'est la nausée, parce que la nausée, forcément, si vous voulez, c'est l'expérience que fait le fils cadet, au bout du compte, après avoir dépensé tout son argent, il va dans les champs garder les porcs, animal impur par excellence. Il voudrait bien même se nourrir. Oui. Alors avec toute la charge symbolique que ça peut impliquer.
Oui, parce que c'est une fin existentielle.
Exactement, c'est une fin existentielle. Mais il ne peut pas s'en nourrir, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour manger la même nourriture que les porcs. Donc on n'est pas fait pour se nourrir d'impureté ou de choses qui ne peuvent pas satisfaire notre humanité, qui est faite pour Dieu parce qu'elle a été faite par lui. Vous voyez, c'est toute une fidélité. Et donc il ne peut s'en sortir qu'en revenant à la maison du père, en se disant « mais tous les ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi je crève de faim ». On arrive à crever de faim. Et c'est pour ça qu'en même temps, cette parabole nous dit quelque chose sur notre monde qui veut absolument se priver de Dieu, être totalement indépendant, totalement autonome. Mais on ne peut pas, enfin on peut évidemment, mais quitte à arriver au pire des désespoirs, en tout cas, vous voyez. Et donc, c'est en même temps...
Il perd sa dignité de fils, en fait.
Voilà. Enfant. C'est sa dignité de fils qu'il perd. Mais qu'il perd, et en même temps, le père voit toujours cette dignité possible. C'est pour ça qu'on arrive toujours, on est toujours en retard, mais il n'est jamais trop tard.
Et lui nous attend.
Voilà. Dieu nous attend toujours. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a préparé son laïus, je ne suis plus digne, au moment où il veut dire je ne suis plus digne, traite-moi comme l'un des ouvriers de ta maison, le père il ne lui laisse pas dire ça, il appelle ses serviteurs, il lui donne la belle robe, l'anneau au doigt, les sandales aux pieds, qui est chargé de symboles, on ne peut pas tout dire, je vous laisse voir dans le livre, mais c'est donc une parabole qui véritablement nous donne une conscience claire de ce que Dieu veut pour nous. C'est-à-dire, il veut qu'on soit des fils. Évidemment, le père de la parabole qui a deux fils, c'est évidemment le père des cieux. C'est une image du père des cieux qui veut véritablement nous rassembler dans son royaume, via la maison qui est l'église aussi quand même, où on peut bénéficier de tous les biens sacramentels, spirituels, théologiques, etc. etc. Bon, mais en même temps, dans une totale liberté.
Oui. Mais ça implique quand même le repentir. Vous dites que le père attend le fils, mais le fils fait se repentir.
Absolument. On l'entendait tout à l'heure avec la petite Thérèse, j'irais le cœur brisé de repentir. Parce que le problème, c'est qu'on a à l'heure actuelle une vision de la miséricorde qui serait finalement une sorte d'automatisme. Dieu serait
un
bon.
Distributeur.
Un distributeur. Et du coup, on n'aurait pas responsabilité, et c'est justement indigne de nous. Parce que précisément, si Dieu nous crée des êtres spirituels, puisque nous avons une âme spirituelle et capable donc de liberté, d'action libre, etc., et on a une responsabilité humaine. Voyez, cette responsabilité humaine, elle peut être totalement dévoyée, notre liberté peut être totalement dévoyée, mais on peut revenir à Dieu par le repentir, en reconnaissant que ce que nous avons fait n'est pas bien. C'est ça, et pour ça que je cite aussi, parce que j'ai voulu quelques respirations dans ce livre, j'ai voulu, parce que je m'intéresse un petit peu au cinéma, j'ai voulu mettre des respirations, des illustrations de films, et notamment donc, La Strada de Fellini, qui est pour moi un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, et puis Dead Man Walking, qui est le film La Dernière Marche, en français, avec Sean Penn et Susan Sarandon, le film de Tim Robbins, qui, justement, est l'histoire. Je dirais scandaleuse, mais scandaleuse qui est tellement bien montrée parce que c'est tellement actuel, ça n'a rien à voir avec la parabole d'un prophétique, mais ça dit quelque chose de cette parabole parce que c'est l'histoire de Sean Penn qui est un grand criminel et que, il a fait des choses atroces avec un de ses compagnons d'armes, c'est le cas de le dire, puisqu'ils ont descendu le.
Oui, il y a des assassinats.
Des assassinats, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et Susan Sarandon, c'est une religieuse qui accompagne cet homme dans le couloir de la mort. Et attention, cet homme, c'est pas un enfant de cœur, vous voyez, mais en même temps, il va prendre conscience. Quand il prend conscience, finalement, il rejette toute la faute sur la société, sur son compagnon,
c'est pas moi qui l'ai fait,
c'est pas moi qui l'ai fait, etc., etc. Puis à un moment donné, ah, si c'est moi, cet homme-là, c'est moi.
Il y a une prise de conscience.
Voilà, une prise de conscience. Très bien. Là, il y a le repentir, il pleure, et là, elle lui dit, tu es enfant de Dieu, Matthew. Maintenant tu es en France. Et il part après dans le couloir de la mort, Dead Man Walking, c'est l'homme qui marche vers la mort. Donc il est effectivement par le liquide létal, donc il meurt, mais en plus avec les bras en croix, puisque s'il est sur sa chaise de condamné.
C'est plein de symboliques.
Mais c'est tout plein de symboles. Et il demande pardon à toute la famille. Et il dit, j'espère que ma mort pourra vous permettre de
faire votre deuil.
Votre deuil. Ouais, c'est très fort, ce film.
C'est beau. Quelle part... on va parler maintenant du fils aîné. Il dit avoir toujours été fidèle à son père. Il désapprouve l'accueil fait par son père à son frère. Qu'est-ce qu'il réclame, lui, comme part d'héritage?
Le fils aîné?
Oui.
Le fils aîné, d'abord, il est scandalisé.
Oui.
Et c'est normal.
Et il y a de quoi.
Mais il y a de quoi. Effectivement, la justice... je dirais rétributif, qui réclame que le bien soit honoré, est forcément scandalisé. Enfin, comment est-ce que... Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que y a la compensation pour la société d'un délit, c'est la prison. Bon, il n'y a plus la peine de mort, mais c'est la prison. Il y a encore la peine de mort aux États-Unis.
Pour empêcher de commettre à nouveau le mal.
Parce que forcément, pour protéger les gens et puis pour dire, non, c'est pas bien. Sinon, c'est l'anarchie totale. Donc, la justice est nécessaire. Mais en même temps, vient se greffer dessus. Alors, la justice humaine est nécessaire, mais en même temps, il y a plus grand que la justice.
Mais il y a aussi la justice de Dieu, quand même.
Et il y a la justice de Dieu, on est tout à fait d'accord. Mais cette justice de Dieu en tout cas le plus grand attribut de Dieu, c'est pas sa justice, c'est sa miséricorde. C'est-à-dire que, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la miséricorde nous rend juste. C'est-à-dire que Dieu, et ça s'appelle la grâce, par la grâce, il nous donne la justice qu'il exige de nous. Il exige justement qu'on soit juste, qu'on s'ajuste à sa volonté et à ses commandements, mais c'est lui qui va nous donner justement, qui nous ajuster par sa grâce. Pour cela qu'il faut comprendre que ça vient toujours de Dieu, c'est toujours une initiative gratuite de Dieu, mais seulement ce qu'il demande à l'homme, c'est d'y consentir. Et voilà où est la liberté, c'est une liberté de consentement. Je cite la petite phrase de Saint Bernard, toujours, « consentir, c'est être sauvé ».
Oui, c'est ça. Et vous attirez aussi notre attention dans votre ouvrage, frère Jean-Gabriel, sur ce fils aîné qui a tout reçu. Il trouve ça normal et vous ajoutez qu'il s'attribue les mérites de sa fidélité. Et on ne va pas se le cacher, nous sommes souvent dans cette même attitude. Alors comment...
Ça s'appelle le pélagianisme. Vous savez, c'est la fameuse hérésie que le magistère a condamnée. Il faut toujours écouter le magistère. Il y a toujours la collégialité, j'entends. Et puis tous les conciles ont toujours dit qu'on ne pouvait pas s'attribuer justement le salut. Le salut, on le reçoit comme un don gratuit. Mais ça s'appelle la grâce, justement. Sinon, la grâce n'est plus grâce. Il n'y a pas de mérite préalable à la grâce de Dieu. Vous voyez, on en est tous au même point. Mmh. On est tous des pécheurs pardonnés.
Ça ne se mérite pas. Il n'y en a pas un qui mérite plus que l'autre, la
Christ
grâce.
Le Christ l'a mérité pour nous. Et c'est par les mérites infinis du Christ seul qu'on est sauvé. Mais aussi, il faut bien comprendre que ce que vous soulignez est très important dans la mesure où jamais on est toujours dans une attitude de pauvreté spirituelle. C'est pour ça que la petite Thérèse est un docteur si moderne, je dirais, et si actuel, parce que justement, elle n'insiste pas sur les mérites et les vertus préalables, mais elle insiste surtout sur la miséricorde infinie de Dieu qui va nous donner d'avoir part à ses mérites et à sa grâce pour qu'on puisse effectivement avancer sur le chemin. Mais ce chemin, ce sera toujours le premier acteur de notre salut, c'est Dieu, et qui nous accompagne toujours. Même répondre à sa grâce est une grâce de Dieu.
Oui, c'est ça.
Vous voyez,
c'est ce que dit Saint Paul dans la justification.
Absolument.
Voilà, l'amour avec les actes.
Je parle effectivement de cette justification qui a fait couler tellement d'eau, puisque c'est un débat théologique qui nous a opposé aux protestants. Maintenant, on arrive à peu près à s'entendre, encore que, mais oui, il y a quand même un décret là-dessus. Mais c'est très important, parce que la justification, par la foi, c'est justement ce que j'exprimais à l'instant, c'est-à-dire que si on ouvre notre cœur avec confiance à ce Dieu qui nous attend, et si on consent à cette grâce qui nous délivre de notre péché, cette grâce nous fait également entrer dans une justice qui ne vient pas de nous. Si la justification, c'est-à-dire qui...
La justice de Dieu, alors.
Justificare, ça veut dire rendre juste. Donc, c'est Dieu, il faut simplement comprendre que c'est Dieu qui nous rend juste par sa grâce et qui va nous ajuster, justement, à sa volonté. Vous voyez ? Donc, il y a réellement quelque chose qui se passe. C'est pour ça que il y a une transformation intérieure. C'est pour ça que la foi, c'est ce qui nous oppose un petit peu aux protestants, parce que justement, nous pensons qu'il y a une sanctification, une purification possible, mais c'est l'œuvre de Dieu lui-même, moyennant
une participation
de consentement, et en même temps de consentement et de réponse, mais de réponse libre de notre part. Évidemment, la vie vertueuse, la vie théologale et les vertus cardinales, bien entendu. Mais c'est possible, cette vie est possible parce que Dieu nous aime et nous rend ce salut possible donnant son fils. Vous voyez, qui est le vrai fils aîné de la parabole, en fait.
Voilà, vous l'avez dit, effectivement. Pour conclure, vous invitez à demeurer en Dieu et à une véritable conversion. Comment Sainte Thérèse peut-elle nous y aider ?
Parce que la petite Thérèse, justement dans sa voie d'enfance, alors toute sa petite doctrine, on n'a pas le temps d'en parler, mais surtout dans l'expérience qu'elle en a faite, notamment en Noël 1886, avec cette grâce de Noël extraordinaire qui a été dit que Dieu l'a tirée des langes de l'enfance pour la faire entrer dans une pleine maturité spirituelle, vous voyez, et entreprendre sa course de géant. Voilà, et c'est pour ça que Louis Bouillet dira que la voie d'enfance spirituelle, c'est justement l'expérience, et là, ça n'est ni plus ni moins que l'expérience de la théologie de la justification intérieure par la foi. C'est ce qui aussi m'a donné l'intuition pour ce chapitre sur la justification intérieure, qui est une notion très, très importante. Mais donc la petite Thérèse, elle est phénoménale dans la mesure où elle nous dit que c'est pas sur nous qu'il faut compter. Il faut s'appuyer sur Dieu seul. Voyez, parce que Dieu seul, le Père, justement, qui a un dessein d'amour pour nous et qu'il veut poursuivre, qui est fidèle. Vous savez, c'est la phrase de Saint Paul magnifique de 2 Timothée. Si nous sommes infidèles, Dieu lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Vous comprenez, c'est extraordinaire, ça. Dieu ne peut pas renier l'amour qu'il nous a donné et qui est inscrit déjà dans notre création elle-même. Donc, Dieu reste fidèle à sa promesse, à son dessein de salut. Et c'est ça que j'ai voulu. Pour ça qu'il est prodigue d'un amour, mais infini, incommensurable, il est transcendant, forcément, cet amour, parce que c'est un amour divin, justement, qui ne nous abandonne pas à notre détresse, alors qu'il aurait pu, puisqu'il est éternellement heureux.
Oui, parce qu'il n'a pas besoin de nous.
Non, non. Voilà, Henri Guerdetel n'a pas besoin de nous. Il est éternellement heureux en lui-même. Mais il veut avoir besoin de nous. Ça, c'est une phrase de la petite Thérèse qui revient souvent. Pourquoi ? Parce qu'il est amour et miséricorde. Et c'est pour ça qu'il est prodigue de ses bien fait, de son amour infini, bien davantage que nous, on dilapide plutôt l'héritage.
Et oui, c'est ça.
Pour ça que je joue avec le terme prodigue. Oui. Mais évidemment, c'est pas un père qui dilapide sans
il dilapide sa miséricorde,
évidemment. Et donc ça peut être c'est une fontaine, une source à laquelle on peut s'abreuver sans qu'elle ne s'épuise. C'est ça, Dieu est source infinie de grâce, et il nous l'a amplement montré en nous donnant son Fils, qui est mort pour chacun d'entre nous.
Et donc finalement, contempler son Fils mort et ressuscité pour nous, le moyen d'entrer et de mieux comprendre cette fidélité
Absolument.
De Dieu, sa miséricorde.
Absolument, on ne peut véritablement comprendre déjà quoi que ce soit à l'histoire de notre humanité et puis à la révélation chrétienne. C'est Dieu qui se révèle lui-même, si vous voulez, qui se révèle lui-même, donc il faut quand même l'écouter. Et Dieu, dans son Fils, il vient reprendre, réordonner la création. Ce n'est pas une création nouvelle. Il fait quelque chose de nouveau, mais dans la création elle-même.
Il s'inscrit dans la continuité.
Il s'inscrit dans la continuité comme la grâce ne détruit pas la nature, mais la perfectionne, comme dit si bien saint Thomas. C'est-à-dire qu'il y a une reprise et un accomplissement par le Christ. C'est le vrai fils aîné de la parabole, en fait, finalement, et qui donne sa vie pour nous. Et le festin, finalement, on peut y voir aussi le festin de l'Eucharistie, et puis le festin, le banquet céleste, etc. Vous voyez, on peut encore prolonger, en faire d'autres livres que ce livre-là sur cette parabole qui est absolument incontournable et en même temps qui se prête à... J'ai pas la prétention d'être exhaustif par mon livre.
Vous ne nous annoncez pas un tome 2 de cet ouvrage, mais il y aurait tant à dire. C'est vrai. Merci beaucoup, frère Jean-Gabriel.
Je vous en prie. Merci à vous de m'avoir invité, Isabelle.
Je rappelle le titre de votre livre, Le Père prodigue, aux éditions du Carmel. Et en guise de revoir, je termine par les derniers mots de votre ouvrage. Vous nous avez éclairé sur le Père, et je vous cite, qui nous prodigue ses bienfaits bien plus encore que nous ne les dilapidons, puisqu'il est fidèle, lui, le Dieu qui nous appelle.